Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Si vous avez raté USA Today, c'était à 15h30 tout à l'heure. On évoquait aussi le secteur du tourisme avec de belles publications. Ça se confirme, le secteur du tourisme cartonne. Royal Caribbean, le croisiériste, a publié, c'est positif. American Airlines, Southwest aussi. On en parlait avec Thierry Guy pour Raymond James France. Le replay, si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application, vous la connaissez, BFM Business ou encore sur bfmbourse.com. Le club, le potentiel des marchés, on va le mesurer. Ils sont là, nos coéquipiers, ils viennent de s'installer avec des idées claires. En tout cas, on va leur demander un maximum d'idées et les plus claires possibles sur les publications du jour. Essayez d'en tirer la substantifique moelle. Rachid Medjaoui, bonsoir Rachid.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, directeur adjoint de la gestion privée de Louvre Banque Privée. Et puis Bertrand Puif aussi qui nous accompagne pour Fidélité Internationale. Rebonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous nous accompagnez en fil rouge, vous étiez avec nous aussi dans la précédente demi-heure pour le bullshitomètre. Étienne nous disait à l'instant, le marché devient vraiment exigeant. Hermès, superbe publication Hermès, le titre perd plus de 2%. Meta annonce vouloir dépenser encore plus pour l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, le titre aurait explosé à la hausse. Là, il recule de 12%. Est-ce qu'on arrive sur un point de marché où effectivement les investisseurs deviennent encore un peu plus exigeants, avec peut-être cette nécessité, ce besoin consolidé qui transparaît davantage dans la façon dont le marché réagit aux publications? Rachid.
C'est tout à fait ça, et Étienne Braque disait que effectivement la plupart des valeurs qui publient correctement ne sont pas bien récompensées. Je crois que, en tout cas pour nous, ça traduit effectivement ce positionnement qui commençait à devenir quand même assez élevé. Toutes les enquêtes montraient que la plupart des gérants depuis plusieurs mois étaient partis à la chasse et étaient revenus relativement pondérés, en particulier tous ceux qui ont des stratégies un peu momentum. Donc pour nous, c'est ça. Alors après, il y a quand même, il faut toujours des catalyseurs. Et les catalyseurs, c'est quand même le sujet des taux d'intérêt qui est probablement et qui va rester probablement le sujet, le facteur premier, le catalyseur le plus important. Et tout ce qu'on peut dire quand même, en fait on en parlait, mais la visibilité sur les taux d'intérêt, on savait que ça allait être très compliqué. On avait quand même, on pensait que c'était un peu plus visible sur les banques centrales, ça le devient beaucoup moins. On savait que...
Juste pour info, pour ceux qui l'ont raté, le 10 ans américain est en hausse aujourd'hui. C'est l'une des explications à la baisse du marché. Le 10 ans américain est à 4,7%. On a eu un chiffre de l'inflation en composante de la croissance. L'inflation toujours très, très élevée, en tout cas solide, collante, l'inflation aux États-Unis, ce qui explique cette nouvelle tension obligataire.
Et oui, vous avez raison. Et sur l'obligataire, on avait toujours dit que la visibilité allait être extrêmement compliquée parce qu'on ne peut pas à la fois être satisfait d'une croissance globalement. Et le chiffre qui est tombé aux États-Unis, pour moi, ça reste un très bon chiffre. En fait, il n'y a pas de ralentissement aux États-Unis. Le 1,6, si vous enlevez...
1,6 de croissance, c'est sous les attentes.
Oui, Rachid. C'est sous
les attentes. On a moins de croissance et toujours autant d'inflation. Certains disent on va vers la stagflation.
Quand vous regardez ce chiffre et que vous le disséquez de manière à peu près correcte, vous voyez qu'en fait, la demande domestique est à 3% aux États-Unis. Il y a un effet stock et un effet externe qui est très fort.
La balance commerciale et la hausse du dollar qui pèsent dans la balance commerciale.
Mais en réalité, la demande des facteurs de la demande domestique tourne autour de 3%, ce qui est beaucoup. Donc, on ne peut pas à la fois tabler, et c'est notre cas, sur des perspectives de croissance et notamment cette resynchronisation positive au niveau mondial et penser que les taux d'intérêt à long terme allaient continuer à rester stables, voire continuer à baisser. Alors voilà, donc on traverse une séquence un peu difficile, des catalyseurs, mais la toile de fond pour nous reste constructive. Je le disais, des perspectives de croissance, les résultats, faut faire attention, ce sont des résultats du quatrième trimestre. On sait que l'économie américaine européenne n'était pas forcément en très très bonne très bonne forme.
C'est pas le trimestre le plus significatif de l'année.
Et au contraire, ce qu'on voit, c'est plutôt de manière dynamique plutôt une inflexion positive. Quand on regarde par exemple le momentum des révisions des analystes, on voit que même en Europe, depuis quelques semaines, c'est plutôt en train de retourner à la hausse. Donc globalement, nous, on s'était positionné comme beaucoup d'acteurs pour une consolidation. Cette consolidation aujourd'hui, elle commence à être significative aux États-Unis, relativement limitée en Europe. Ça aussi, c'est une bonne surprise, mais qui a été jouée, c'est-à-dire l'Europe qui reprend un peu de retard par rapport aux États-Unis. Mais nous ne voyons pas de raison de basculer vers un scénario plus négatif pour les prochains mois. Il va falloir trouver un point d'entrée. Ça va beaucoup dépendre également du chiffre d'inflation demain.
On y reviendra, effectivement, voilà. Le PCE demain aux États-Unis. Voilà. Votre regard à vous, Bertrand, sur les publications. Le marché est quand même prompt à sanctionner. Hermès, magnifique la publication. Alors, on n'a pas l'IA en France, c'est vrai, mais on a la désirabilité et on a Hermès, par exemple. Et pourtant, le titre, après cette belle publication, perd quand même 2%. Est-ce que c'est le signe que là, on a atteint une forme de plafond sur un certain nombre de secteurs de valeurs et peut-être donc une nécessité pour le marché de trouver de nouvelles idées pour la suite?
Ah oui, parce qu'il y a une concentration extrêmement forte des investissements des grands investisseurs internationaux sur un nombre très réduit de valeurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors aux États-Unis, on a ces 7 magnifiques, mais en Europe, on a ce qu'on appelle les granolas, dont font partie les valeurs de luxe. Et c'est vrai que le différentiel de valorisation entre un Hermès, qui s'est toujours traité évidemment avec une prime substantielle par rapport au marché, mais aujourd'hui, on est de 1 à 4. On est plutôt historiquement de 1 à 3, donc on est plutôt dans la fourchette vraiment haute. Hein. On est allé chercher des écarts de valorisation. On est à 50 fois, entre 50 et 55 fois sur Hermès, hein, alors que le marché est à 14 fois. Donc c'est vrai, et tout le monde en a. Quasiment tout le monde en a. Donc, quel est l'acheteur marginal là-dessus? Il faudrait vraiment que la publication, elle soit encore mieux. Et donc, c'est vrai que même sur une bonne publication, quand on voit que le titre baisse, il aurait fallu quoi? Qu'il soit sous 15% de croissance? Pour que peut-être on voit le titre monter. Donc ça en dit long sur le fait que, basiquement, cours d'une action, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont dans leur portefeuille, qui sont à la limite des ratios réglementaires.
C'est ça.
Et donc,
qui peuvent pas beaucoup la renforcer. D'autant qu'en ayant autant monté, Hermès a aussi augmenté dans la pondération des portefeuilles tout seul, sans même qu'on ait acheté davantage de titres. Donc, oui,
Donc, il y a une nécessité de respiration et d'être d'autres titres sur lesquels il y a moins de pondération aujourd'hui des investisseurs.
Et vous vous dites quoi, en regardant globalement les publications quand même, qu'on est toujours étonné par la capacité des entreprises à parvenir à dégager des marges, protéger le chiffre d'affaires, ou au contraire, là-dessus aussi, on voit que ça commence, c'est doux, hein, c'est lent, mais à se dégrader quand même de façon un petit peu plus globale.
Oui, il y a quand même des publications, on note, hein, dans un certain nombre de valeurs industrielles qui ont publié et qui ont du mal, ce qui est logique. Hein. Dans un premier temps, donc, ils répercutent l'inflation, donc c'est très bien, même un peu plus que l'inflation, donc même pour rapport aux marges, ça marche bien. En plus, il y a des stocks qui ont été constitués sur des niveaux de prix plus bas, on les vend sur des niveaux de prix plus hauts, donc on capte cet effet un peu d'aubaine lié à l'inflation, mais ça dure que quelques trimestres, et aujourd'hui, on rentre dans le dur. On voit bien que les matières premières elles ont eu un petit peu de faiblesse fin février, début mars, mais là donc elles se reprennent avec des statistiques en Chine qui laissent d'ailleurs à penser que ce train peut continuer, et donc ça devient compliqué, plus derrière les salaires, hein, pression sur les salaires aux États-Unis, c'est évident, en Europe ça commence à arriver, donc il y a une pression aujourd'hui sur les marges des entreprises et une capacité à augmenter les prix dans l'environnement actuel, notamment en Europe, qui est quand même maintenant limitée, parce qu'ils ont déjà augmenté pas mal.
On est à 19 minutes de la clôture, on entre dans la dernière ligne droite, on accélère en Europe et on recule. Le CAC 40 perd en ce moment à 19 minutes de cette clôture, donc 0,8% notre CAC, mais préserve finalement les 8020 points en ce moment. Dassault Systèmes, après sa publication, perd plus de 5,5%. Également en repli aujourd'hui, le titre Thales, moins 2,4%. Et puis Hermès, dont on parlait à l'instant, Pernod Ricard aussi, qui recule d'un peu plus de 2,4%. À la hausse, Sanofi. Alors, c'est une belle publication, Sanofi, supérieure aux attentes. Le Dupixent voit ses revenus augmenter sur trimestre de quasiment 25%. Les perspectives restent favorables. Et puis, le plan de transformation aussi, qui convainc de plus en plus de monde, manifestement. En tout cas, c'est ce que nous disait tout à l'heure Eric Blaine, vers 16h, pour Swiss Life Banque Privée. Sanofi gagne donc aujourd'hui plus de 4%. BNP Paribas aussi a publié, c'est bien, plus 1,2%. BNP Paribas, peut-être de bon augure pour Société Générale, notamment dans les activités de marché. Et puis STMicroelectronics qui ce matin reculait, finalement cet après-midi progresse, le titre STM, plus 1%. STM qui estime que le point bas est sans doute passé dans l'univers des semi-conducteurs. Le CAC 40 recule, donc dans quelques minutes on appellera Étienne Brack depuis la tour Euronext. Et puis hors CAC, Fnac Darty a aussi publié, le titre gagne 4,5%. Bertrand Puif et Rachid Medjaoui nous accompagnent ce soir. Meta, il faut absolument qu'on qu'on en parle de Meta quand même. Meta qui annonce donc des dépenses plus élevées qu'annoncées initialement dans l'intelligence artificielle. Et pourtant, le titre perd 12%. Enfin, on aurait pu attendre l'inverse. Au trimestre précédent, Meta, si Meta avait annoncé dépenser davantage dans l'IA, on imagine que le marché aurait acheté. Là, le marché n'achète plus. Est-ce que la baguette magique de l'intelligence artificielle opère un peu moins désormais en bourse, Rachid ?
Je ne suis pas sûr qu'elle opère moins, mais on rentre effectivement dans cette phase où il va falloir monétiser l'intelligence artificielle. Enfin, le message d'hier du marché, c'est celui-là. Il y a aussi le positionnement dont on vient de parler. Enfin, les titres avaient énormément progressé, oui. Sont très détenus. Mais je crois que plus stratégiquement, et ça on le voyait déjà depuis quelques semaines, dorénavant, il va falloir effectivement, pour pouvoir profiter de cette euphorie liée à cette thématique de l'intelligence artificielle, être prouvé que l'on va vraiment monétiser et pas simplement investir, parce que c'est le message d'hier de Meta, c'était on investit lourdement, mais pour le moment, on n'a pas forcément de certitude en termes de revenus. Ah oui. Donc je pense que on rentre dans cette période où le marché va vouloir effectivement exiger que ces investissements extrêmement lourds d'une manière soit de productivité soit de revenus se traduisent par des résultats patents.
Meta qui veut devenir un jour leader mondial de l'IA. Le problème c'est qu'il risque de vouloir y aller en mettant trop, enfin en coulant largement, beaucoup trop d'argent peut-être, comme il l'avait fait peut-être dans le métavers où là stratégiquement il s'était un petit peu planté. Est-ce que c'est pas ça qu'a le marché en tête vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Est-ce que Meta voit pas un peu trop gros et oublie d'essayer d'engendrer plus de revenus à court terme grâce à cette IA? Est-ce que Meta veut pas aller trop vite quitte à sacrifier effectivement les revenus à court et moyen terme, en l'occurrence.
Ça a été toujours le problème de ce groupe-là, hein, qui se comporte encore comme une start-up, oui. En lançant des programmes qui, effectivement, peut-être à 10 ou 15 ou 20 ans, se créeront de la valeur, mais qui, à court terme, pour l'actionnaire, sont difficiles à comprendre. Donc, c'est vrai que ces valeurs-là, que nous, on appelle des concept stocks, entre guillemets, hein, où on regarde un peu moins, en fait, les déterminants, enfin, les chiffres, que la direction, on va dire. Ces concept stocks, il y a des moments où ça marche, et donc il y a eu cet engouement autour de l'intelligence artificielle, comme il y a eu un engouement autour de l'hydrogène, si on s'en souvient, il n'y a pas très longtemps, hein, qui vient d'ailleurs tous les 10 ou 15 ans, on avait eu le même au début des années 2000. Donc voilà, c'est cyclique, il y a un engouement qui arrive, qui repart, et c'est vrai qu'on a vu aussi Nvidia, il y a eu des prises de profit assez fortes sur Nvidia en vendredi dernier, en attendant sa publication dans 3 semaines, qui va être assez clé aussi pour tout le secteur et pour le marché américain en règle générale. C'est vrai que là, on est sur des niveaux de tension, c'est-à-dire que le marché, les investisseurs n'achètent plus cette euphorie, et ont besoin, effectivement, d'avoir des choses tangibles, et des business plans avec, en disant, à 3 ans, à 5 ans, combien on va gagner d'argent sur ces investissements.
Oui, Meta moins 12 en ce moment, donc sur le marché américain, c'est compliqué, Meta en bourse. Le titre avait bien rebondi, puis là, on repère d'un seul coup 12%. Certains s'amusent sur les réseaux à dire, non, c'est pas Meta, c'est pour les investisseurs, c'est Meta ceinture, là, en l'occurrence. Enfin, oui, il faut bien s'accrocher quand on a ce titre Meta en portefeuille, c'est compliqué, ça dérape et c'est glissant. Et en plus, ce soir, Meta pourrait souffrir de la comparaison avec Microsoft. Après la clôture, Microsoft va annoncer ses résultats. Et pour le coup, autant Meta a du mal à monétiser l'intelligence artificielle, autant Microsoft là-dessus a de l'avance. Et il va pas falloir que Microsoft déçoive sur ce point. Jusqu'ici, ils n'ont pas déçu, ils ont plutôt toujours surpris agréablement, grâce notamment à Copilot. Microsoft est d'ores et déjà dans la phase de monétisation de l'intelligence artificielle. C'est la valeur star mondiale, c'est la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation désormais, Microsoft. Est-ce que vous craignez cette publication, en l'occurrence, ce soir après la clôture de Wall Street, ou est-ce que Microsoft est sur un tel train qu'on peut espérer effectivement encore des bonnes surprises sur la monétisation de l'intelligence artificielle, Bertrand ?
Là encore, c'est une question de valorisation. C'est-à-dire que Microsoft, si on avait discuté de Microsoft il y a 3 ou 4 ans, la valorisation était relativement faible par rapport donc au business qui est un business historique de Microsoft qui génère beaucoup d'argent. Et c'est ça l'intérêt de Microsoft. C'est-à-dire que c'est une machine à cash et qui peut réinvestir, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Meta, ou pas autant. Là, il y a eu cette re-rating, cette augmentation des multiples sur Microsoft qui est liée à cet engouement autour de l'intelligence artificielle. Donc, la valeur va être sensible, grosso modo, à la même chose. Et compte tenu de son poids dans les indices américains et de l'impact que ont les indices américains sur les marchés boursiers mondiaux, la vraie question, c'est effectivement, est-ce qu'une déception, même mineure, et j'allais dire même, est-ce que, même si c'est en ligne, est-ce que ça va suffire pour que les investisseurs, à nouveau, plébiscitent le secteur et cette valeur-là. Après, il peut se passer effectivement, comme Microsoft aussi dit vouloir être le leader dans l'intelligence artificielle, si eux s'en sortent mieux que Meta, les investisseurs peuvent basculer sans doute peut-être de Meta vers Microsoft et jouer le fait, ce que souvent on joue dans la technologie, hein, c'est voilà, il y a un seul gagnant, pour traduire ça en français, et voilà, il va qui tue tous les autres. Donc c'est vrai que ça peut aussi jouer et limiter effectivement une prise de profit.
Pour l'instant, le gagnant de l'IA, c'est le plus ancien de tous, hein, c'est Microsoft avec ChatGPT, Copilot, voilà. Et puis il y aura Alphabet aussi à surveiller ce soir après la clôture. Alors eux sont en retard sur Microsoft, il va falloir qu'ils prouvent que ce retard n'est pas irrémédiable. Ce sera l'enjeu de la publication en effet ce soir pour Alphabet. En attendant, le Nasdaq des trois indices américains ce soir en direct 17h22, 11h22 à New York. Le Nasdaq est des trois indices américains, celui qui recule le plus, moins 1,7%. Le S&P lui perd 1,3%. La suite. Est-ce qu'on se dit, Rachid, que l'Europe a une énorme carte à jouer par rapport à Wall Street, justement ? La BCE devrait baisser ses taux avant la Fed, par exemple. La valorisation de l'Europe est plus basse que celle de Wall Street. Le rendement des marchés européens est plus élevé que celui de Wall Street. Est-ce que vous sentez venir une tête de tir plus favorable pour l'Europe face à Wall Street, désormais ?
En tout cas, nous, on s'est positionné pour ça, depuis maintenant plusieurs semaines. D'une part, parce que on était gêné par cette méga concentration, alors qui existe également dans les indices européens, mais quand même beaucoup moins. Nous jouons et continuons de jouer plutôt, alors de manière timide, mais quand même un redressement cyclique en Europe. Et les derniers indicateurs venant même d'Allemagne, regardez l'enquête IFO qui est tombée, donne vraiment l'impression que ça y est, ça démarre. Alors faut pas rêver, mais quand même, les attentes, notamment sur les résultats bénéficiaires, le marché attendait à peine plus 4% pour cette année, compte plus de 10% aux États-Unis. Bon, donc on a beaucoup de vent arrière. Et puis dans les portefeuilles, parce qu'à la fin de la journée, c'est effectivement l'offre et la demande. Le marché est globalement encore très sous-pondéré, valeur européenne versus valeur américaine. Donc on a toutes les raisons. Alors, la seule chose qui pourrait faire dérailler finalement, je dirais, cette rotation, qu'on ne voit pas non plus comme une rotation structurelle, c'est un, bien entendu, un accident obligataire, parce que vous disiez, la BCE, a priori, devrait baisser les taux avant la Fed, mais on voit quand même que il y a quand même elle est polluée par ce qui se passe aux États-Unis. Au moment où on parle, avant de rentrer, je regardais, il y a pratiquement à peine, un peu plus d'une baisse des taux qui est dorénavant pricée aux États-Unis, et c'est septembre, donc ça va quand même très très vite, à la suite du chiffre qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire croissance forte et inflation collante.
Et toujours là.
Donc il faudrait pas qu'on il faudrait pas qu'on ait. Et puis deuxième chose, il faudrait pas que les prix des matières premières et du pétrole, mais pour le moment la géopolitique n'a pas trop d'effet, viennent nous embêter. Mais si on n'a pas ces deux événements là, effectivement, le cas d'investissement de l'Europe versus les États-Unis est en tout cas dans nos portefeuilles, nous, c'est ce qu'on a fait depuis maintenant quelques
Alors, semaines. Justement, le marché a-t-il raison de ne pas s'enflammer outre mesure sur le risque géopolitique ? Effectivement, le pétrole, franchement, on est à $87 le baril de Brent, c'est très raisonnable. L'once d'or s'est éloigné de ses records, alors même si on a quand même touché des records il y a quelques jours, mais voilà. On ne sent pas de stress énorme dans le marché vis-à-vis de cette situation géopolitique. Est-ce que le marché a raison, tort ? Alors, il n'y a que la situation géopolitique qui nous apportera la réponse, voilà. Mais comment est-ce que vous jugez ce comportement de marché ? C'est finalement assez raisonnable, le marché, ou plutôt dans le déni, inconscient ?
Je ne sais pas si on est dans le déni, parce que c'est très difficile, mais si vous voulez, déjà, partons des fondamentaux, il y a quand même ce qu'on appelle des capacités disponibles sur le marché du pétrole, ce qu'on appelle les spare capacity, qui sont sur les plus hauts. Hein, on a pratiquement à 6 millions de barils le jour qui peuvent être monopolisés facilement. Et puis, on a l'impression, mais moi, je suis extrêmement prudent, bien entendu, par rapport à ça, mais on a l'impression que les deux pays qui pourraient embraser la situation ne veulent pas d'escalade. Donc, mais ça reste, bien entendu, quelque chose qui est potentiellement...
Il faut suivre. Voilà. Israël et l'Iran, en l'occurrence. Votre regard, Bertrand, vous suivez de très près les matières premières. Vous estimez qu'il y a une forme de rationalité, là, du côté des matières premières. Il y a effectivement peut-être une suroffre. Comment est-ce que vous analysez le fait que on a des matières premières qui montent, le cuivre, par exemple, le zinc, enfin voilà, toutes ces matières premières aussi nécessaires à la transition énergétique, aux nouvelles technologies, mais sur le front du pétrole, la matière première par excellence, on a vu pire comme tension.
Bon, il y a un pilotage politique, à notre avis, jusqu'aux élections américaines, par l'Arabie Saoudite notamment, et qui fera rien, et qui garde en fait ses armes un peu si par hasard Trump effectivement était élu, et qui a à nouveau une rhétorique un petit peu agressive sur le prix du pétrole, comme on l'avait à l'époque avec Trump qui tweetait en disant « je veux que le prix du pétrole baisse, faites ce qu'il faut les Saoudiens ». Voilà, bon, ça leur permet de garder un petit peu de capacité à également donc agir face à ça. Bon, si on prend l'historique, le détroit d'Ormuz, c'est donc qui est enfin donc on y, qui serait
entre
bouché,
les Gémirats,
voilà exactement, si l'Iran rentrait en guerre avec bon, soit les États-Unis, soit effectivement l'Israël, c'est 20% de la capacité mondiale de pétrole qui transite par ce détroit. Donc c'est 20 millions de barils. Et pour reprendre le chiffre qui avait été effectivement justement mentionné, des 6 millions de supercapacité, de capacité potentielle additionnelle, mettons-le en face de ces 20 millions. Voilà. Donc c'est effectivement dans un cas qui a une probabilité effectivement faible, mais si ce cas arrive d'embrasement, le prix du pétrole va exploser. Ça c'est sûr, c'est, on va monter à $150 minimum, avec les impacts sur l'inflation colossaux. Et les banques centrales, on peut oublier les baisses de taux, c'est terminé. Donc ça, et ce sera un scénario très très négatif pour le marché. Ouais.